Le journal de la rédaction vous est présenté par Mathieu Laurent. Bonsoir Mathieu.
Bonsoir Julie et bonsoir à tous. Au sommaire de cette édition, les lourds enjeux de la 6e présidentielle au Salvador en 12 ans de guerre civile. Portrait d'un jeune leader de droite, l'un des favoris du scrutin, l'ancien maire de San Salvador, Nayib Bukele. Expiration dans quelques heures de l'ultimatum de 6 pays européens, dont la France, lancé au président vénézuélien Nicolas Maduro. Précision de Louise Baudet. Les règles de la concurrence édictées par la Commission européenne ne cessent d'agacer Paris. La ministre des Affaires européennes les qualifie d'absurdes. Ce sera une correspondance de Bruxelles de Pierre Benazet. Puis invité de ce journal, Frédéric Michaud, directeur du département sondage et opinion de l'Institut Opinionway. L'Élysée sonde les âmes et envisagerait un référendum. Référendum ou bien questionnaire à choix multiples. Mais avant de développer ces titres, cette information qui nous est parvenue il y a une bonne heure, la disparition de Josette Audin, une vie à combattre pour la reconnaissance d'un crime d'État, celui-là même de son mari, Maurice Audin. C'était en pleine guerre d'Algérie, Benoît Bouscarel.
Elle est partie apaisée d'avoir vu enfin ce crime d'État reconnu. Ces mots sont de Fabien Roussel, secrétaire national du Parti communiste, qui a lui-même annoncé tout à l'heure la mort de Josette Audin pendant la guerre d'Algérie. Le mari de Josette Audin, Maurice, jeune militant communiste, favorable à l'indépendance, avait été arrêté et torturé et tué par des militaires français, ce qui n'avait jamais été reconnu officiellement par la France. Jusqu'à ce jour de septembre 2018, il y a tout juste 4 mois, ce jour où la vieille dame a reçu chez elle, à Bagnolet, en Seine-Saint-Denis, la visite d'Emmanuel Macron, qui a reconnu ce jour-là un système légalement institué pendant la guerre d'Algérie.
Il aurait mieux valu que ça se passe avant, c'est sûr, mais c'est bien quand même une justice un peu tardive et qui sert plus à grand-chose. Mais bon, c'est mieux que rien.
Mieux que rien pour les historiens, notamment 61 ans après la mort du mari de Josette Audin, et au-delà du soulagement provoqué dans la famille par cette reconnaissance inédite de l'usage de la torture par la République française à des fins politiques en Algérie, la fille de Josette et Maurice, Michel, s'était également exprimée, c'était en septembre dernier, expliquant qu'il fallait aussi maintenant se pencher sur le cas des 3000 disparus de la bataille d'Alger en 57.
Merci à vous Benoît Bouscarel. Fin ce soir de l'ultimatum de 7 pays européens, à dire vrai, 7 dont la France, adressé à Nicolas Maduro. Le président vénézuélien doit convoquer une nouvelle élection présidentielle, faute de quoi ces pays reconnaîtront son opposant Juan Guaido comme président par intérim. Mais Nicolas Maduro reste ferme sur ses positions. Devant des milliers de partisans réunis hier à Caracas, il a relancé l'idée d'élections législatives anticipées. Paris dénonce ce soir une farce. Bonsoir Louise Baudet.
Bonsoir Mathieu.
Louise, Paris fait ainsi monter la pression.
Oui, vous le savez, les capitales européennes avaient donné 8 jours à Nicolas Maduro pour convoquer une présidentielle anticipée. Et comme prévu, le président vénézuélien a balayé cet ultimatum d'un revers de main. À la place, il entend dissoudre le Parlement. Parlement acquis à ses opposants. À Paris, la ministre des Affaires européennes, Nathalie Loiseau, dénonce une farce. Et sur le plateau de LCI, hausse le ton alors que l'ultimatum arrive à expiration.
Cette réponse est une farce tragique. L'ultimatum se termine ce soir. Si d'ici ce soir, M. Maduro ne s'engage pas à organiser des élections présidentielles, nous considérerons que M. Guaido est légitime pour les organiser à sa place. Et nous le considérerons comme le président par intérim jusqu'à des élections légitimes du Venezuela.
La légitimité de Juan Guaido, déjà reconnue par les États-Unis, le Canada et de nombreux pays d'Amérique latine, dont la Colombie et le Brésil. Il y a 3 jours, le Parlement européen leur a emboîté le pas, mais les capitales européennes ont le plus grand mal à s'accorder sur le sujet. Un ultimatum a bien été lancé donc, mais par 6 pays seulement. La France donc, l'Allemagne, l'Espagne, les Pays-Bas, le Portugal et le Royaume-Uni, rejoint in extremis ce dimanche par l'Autriche, mais l'horloge tourne et pour l'heure, aucune déclaration coordonnée ne se dessine. L'Union européenne a toutefois constitué un groupe de contact international qui vise à favoriser l'organisation d'une présidentielle au Venezuela. 8 États membres en font partie, ainsi que la Bolivie, le Costa Rica, l'Équateur et l'Uruguay. L'Uruguay qui accueillera la première réunion de ce groupe, prévue jeudi prochain à Montevideo, sa capitale.
Merci à vous, Louise Baudet. Non loin du Venezuela, une autre équation politique de premier ordre dans un pays considéré comme l'un des plus violents au monde hors zone de guerre, le Salvador, avec avec le premier tour aujourd'hui du 6e scrutin présidentiel depuis le début de la guerre civile il y a 12 ans. Donc le premier tour a lieu aujourd'hui avec encore et toujours à droite comme à gauche les mêmes promesses, sortir le pays de la misère et bien sûr mettre fin à l'insécurité. Les deux candidats de droite devancent la gauche dans les sondages. L'ancien maire de San Salvador, Nayib Bukele, espère incarner le renouveau, Nabila Hamel.
Il a 37 ans et il veut en finir avec l'alternance droite-gauche au pouvoir depuis 1994 entre l'ARENA et le Front Farabundo Martí après la guerre civile qui les a opposés de 1980 à 1992. Nayib Bukele promet à ses partisans d'écrire l'histoire. Allure jeune, casquette sur la tête, grand utilisateur des réseaux sociaux, celui qui se présente comme le candidat anti-système est soutenu par le Parti conservateur Ghana, Grande Alliance pour l'Unité Nationale. Il est talonné dans les sondages par Carlos Galera, 42 ans, propriétaire de supermarchés et soutenu, lui, par l'ARENA. Le dernier mot reviendra aux 5 200 000 électeurs, soit dès ce premier tour, soit au second tour en mars. En tout cas, vous le disiez, Mathieu, les Salvadoriens attendent du futur président qu'il lutte efficacement contre la corruption qui gangrène le pays, qu'il s'attaque à la misère et surtout qu'il mette fin à la violence des bandes criminelles. Ces bandes comptent 70 000 membres, dont 17 000 sont derrière les barreaux. Elles sont à l'origine des 3 340 meurtres qui ont ensanglanté le pays en 2018, ce qui situe le Salvador parmi les pays les plus violents au monde, en dehors des zones de guerre. Chômage, misère, injustice, violence des gangs, un cocktail qui est à l'origine de la vague de départ de ressortissants salvadoriens vers l'étranger. Ils étaient 3000 à avoir rejoint en fin 2018 la caravane en route vers les États-Unis.
Des avions de la coalition sous commandement américain bombardent des positions de l'armée syrienne, non loin de la dernière poche de résistance des djihadistes de l'organisation État islamique à l'est de l'Euphrate. La coalition prétend avoir exercé là son droit à la légitime défense. Des milliers de manifestants aujourd'hui dans les rues d'Istanbul à l'appel du Parti démocratique des peuples en solidarité avec 250 détenus en grève de la faim, eux-mêmes au chevet de Leyla Güven, la députée du HDP a cessé, elle, de s'alimenter depuis plus de 2 mois pour obtenir la libération d'Abdullah Öcalan, fondateur du PKK, emprisonné à vie. C'est un bras de fer entre la Commission européenne et Paris, Berlin et leurs fleurons industriels. Bras de fer auquel la ministre des Affaires européennes, Nathalie Loiseau, a apporté sa contribution ce matin en déclarant que les règles en matière de concurrence sont absurdes. Il faut construire des champions européens, insiste-t-elle. La Commission, qui doit rendre sa copie d'ici au 18 février, n'en disconvient pas. Pierre Benazet, Alstom et Siemens, ne sont-ils pas déjà des champions ?
Du côté de la Commission européenne, l'étude de la fusion entre Alstom et Siemens se fait selon des critères juridiques et techniques. La seule question à laquelle il lui faut répondre, c'est de savoir si le projet risque ou non de créer, dans l'un ou l'autre secteur, des positions dominantes, c'est-à-dire des situations de quasi-monopole qui pourraient créer des distorsions de concurrence. Suite aux propos de la commissaire européenne chargée de la concurrence, Margrethe Vestager, on sait par exemple que ces services ont des doutes pour les marchés du matériel roulant et de la signalisation. Si on prend la signalisation, la Commission préconise un maintien de la concurrence entre différentes entreprises de l'UE afin de favoriser le développement du système de signalisation ferroviaire unique en Europe. Aux appels des gouvernements à créer un champion mondial du rail, Margrethe Vestager rétorque qu'Alstom et Siemens sont déjà des champions européens. Les arguments politiques des gouvernements sont apparemment hors de propos pour la Commission.
Il est 18h09, vous écoutez le journal de France Culture dont l'invité ce soir est Frédéric Michaud, directeur du département sondage et opinion de l'Institut Opinionway. Bonsoir monsieur.
Bonsoir.
On va parler stratégie politique avec vous. Emmanuel Macron sera demain en banlieue parisienne. Le chef de l'État recevra dans la semaine, on ne sait pas quand exactement, les chefs des principaux partis. Autrement dit, c'est un peu porte ouverte à l'Élysée et un chef de l'État plus que jamais au contact des Français. Avec en gestation, Frédéric Michaud, un référendum. Mais d'abord, première question, un référendum ou un questionnaire à choix multiples ?
Alors pour l'instant, c'est une hypothèse. L'idée d'un référendum à questionnaire à choix multiples, c'est une nouveauté, c'est une innovation politique. Vous savez que jusqu'à présent, les différents référendums qui ont été posés ne comprenaient qu'une seule question. Là, il est envisagé de poser plusieurs questions dans le cadre d'un seul référendum. Ça correspondrait au marqueur politique d'Emmanuel Macron, qui est celui de l'innovation politique.
Alors, dilution ou accroissement du risque politique quand on démultiplie les questions ?
Je dirais que c'est plutôt une bonne façon pour diluer le risque politique. Une éventuelle défaite face au Rassemblement national dans le scrutin qui lui est le plus favorable, les élections européennes, parce qu'il faut dire que ce référendum serait couplé, aurait lieu le même jour que les élections européennes, cette éventuelle défaite serait ou pourrait être contrebalancée par une approbation du référendum, une approbation de tout ou partie des différentes mesures qui seraient soumises aux Français par voie référendaire.
Mais ça veut dire que l'organiser, ça voudrait dire en tout cas, que l'organiser le même jour que les élections européennes, c'est la bonne idée, c'est une bonne stratégie à vos yeux ?
Alors d'abord, ça correspond aux attentes des Français. Quand on interroge les Français et qu'on leur demande sur quoi doit déboucher le grand débat national qui est en cours en ce moment, deux tiers d'entre eux attendent un référendum. Et les sympathisants des Gilets jaunes, ceux qui soutiennent le mouvement social, attendent encore plus un référendum, à hauteur de 83%. Donc d'abord, il y a une vraie attente des Français. Ensuite, politiquement, c'est sans doute une bonne stratégie. Ça permettrait justement d'éviter l'effet déceptif de l'issue du grand débat national. Vous savez que le chef de l'État s'est engagé à rendre compte directement de cette consultation, à en tirer les conclusions dans le mois qui suivra sa fin. Et la fin étant prévue le 15 mars, on peut s'attendre à une prise de parole du chef de l'État autour du 15 avril, avec l'annonce d'un référendum qui aurait lieu le 26 mai, le jour des européennes. Il gagne encore du temps et repousse d'un mois l'échéance de la sortie de crise.
Frédéric Michaud, d'accord, on comprend bien qu'il gagne un peu d'espace politique, mais là on parle de la forme et du calendrier et le fond. Quelles questions, combien de questions et comment répondre aux attentes de la contestation, enfin des Gilets jaunes ?
Oui, vous avez raison, c'est toute la question, si je puis dire. D'abord, il y a un vrai risque pour le chef de l'État qui consisterait à recycler uniquement sa réforme institutionnelle. Alors, les aspects institutionnels, par exemple, la reconnaissance du vote blanc, la réduction du nombre de parlementaires, évidemment, ce ne sont pas des aspects anodins, mais les attentes principales des Français et le point qui concentre les attentes du mouvement des Gilets jaunes sont les questions qui sont liées à la fiscalité. Et plus généralement à la justice fiscale et sociale. Donc il va falloir trouver, si cette hypothèse d'un référendum à choix multiples est retenue, il va falloir trouver des items qui cochent toutes les cases, c'est-à-dire qui permettent de traiter évidemment de la question fiscale, mais aussi de la transition écologique, également de l'organisation des services publics, et pas uniquement de la réforme institutionnelle.
Frédéric Michaud, le chef de l'État a-t-il d'autres cartes en main que de proposer ce dont on vient de parler là ?
Oui, évidemment, il y a d'autres solutions traditionnelles dans la Ve République pour sortir d'une crise politique, mais le chef de l'État les a écartées. Il a écarté la possibilité d'une dissolution, il a écarté également la possibilité d'un changement de Premier ministre, et il considère que les annonces du 11 décembre, du 10 décembre, ces annonces économiques, remplissent le rôle qu'avait rempli d'une certaine manière le Grenelle en 1968. Par conséquent, le fait de redonner la parole aux Français par voie référendaire, c'est la seule solution qui lui paraît acceptable pour clore la crise et pour passer à une nouvelle étape de son quinquennat.
Clore la crise, mais après, les réformes sont là à faire. Et alors, à partir de quand dire échec ou dire réussite ? Quels sont les critères, autrement dit, pour dire c'est un échec ou alors c'est une réussite ?
Bah d'abord,
le scrutin des municipales, il va falloir attendre le scrutin des municipales pour voir si le gouvernement est sanctionné ou pas ?
D'abord, le premier scrutin qui arrive, c'est celui des élections européennes, et ce sera une bonne indication, puisque c'est le premier scrutin depuis l'élection présidentielle. Mais il faudra voir aussi quels seraient les différents items de cet éventuel référendum qui ferait l'objet d'une approbation. Et puis, évidemment, il faudra suivre les différents indicateurs d'opinion et les futures élections intermédiaires qui auront lieu, les élections municipales, puis les départementales, puis les régionales, etc.
Merci à vous. Merci Frédéric Michaud, directeur du département sondage et opinion de l'Institut Opinionway. Merci d'avoir accepté notre invitation. Le temps de demain lundi marqué par une nouvelle perturbation par le nord-ouest du pays et un peu de neige attendue de la Mayenne et de la Sarthe à la Normandie et au Hauts-de-France. Cette édition a été préparée avec Caroline Beneteau.